commence aujourd'hui. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
On commence aujourd'hui un nouveau cycle, le 36e atelier d'art de l'UTB. Et on va s'intéresser, vous le savez, à la Renaissance en Europe, c'est le titre de cet atelier nouveau. Aujourd'hui, pour ce premier acte, j'avais envie, sans embâge, de vous livrer 5 œuvres. 5 œuvres que nous allons voir, que nous allons regarder, sur lesquelles nous allons discuter, qui vont être notre manière d'entrer dans cette période, qui est une période assez foisonnante, assez compliquée, assez riche aussi. Les séances prochaines sont des séances, j'allais dire, plus didactiques. Hein, on s'intéressera, je pense, a priori, plutôt à des territoires de la Renaissance. Là, je vais vous livrer 5 œuvres, et ça va être à vous de dégoiser dessus.
Pardon.
Avant de dégoiser sur les œuvres en question, je voulais un peu vous poser la question de qu'est-ce que pour vous la Renaissance. Si je vous dis la Renaissance, vous me diriez quoi? La Renaissance, c'est quoi?
Une période,
ouais.
Et dont le nom est arrivé plus tard.
Ouais. Oui.
On l'a vécu sans le savoir.
Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est d'ailleurs comme, par exemple, la période gothique. Les gens du gothique sont basés à dire, tiens, maintenant on est gothique. Donc la Renaissance, c'est pareil, c'est effectivement un nom qui est venu a posteriori et que l'on, voilà, qu'on a plaqué, effectivement, sur une période que l'on appelle aujourd'hui la Renaissance.
On peut penser à flamboyant pour le style.
Pardon ?
Flamboyant pour le style.
Oui, alors donc le mot tu associerais le mot flamboyant au mot Renaissance. Alors il est vrai que. Alors, mais on va peut-être reparler de ça. Ouais.
C'est majoritairement le XVIe siècle.
Alors majoritairement, c'est quand même. Majoritairement, c'est le XVIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a 15e, disons que ça a commencé au 15e.
Oui, avant.
Mais ça s'est surtout dévoilé. Majoritairement dans le 16e.
D'accord, donc c'est vraiment le 16e siècle qui serait le noyau dur de la Renaissance.
Avec un avant et un petit après. Quoi.
D'accord.
Mais ça, on y était.
Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'origine de ce que l'on appelle après coup, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est important, parce que cette analyse de la Renaissance, c'est un plaquage, une analyse tardive sur cette période. Hein. C'est évidemment en Italie qu'on voit les premiers. Surgissement, pourrait-on dire, de ce qu'on appelle la Renaissance. Hein.
Et surtout donc, Florence.
Et surtout Florence. Vous situiez ça plutôt au 15e
Fin 14e.
Donc on aurait fin 14e, une première émergence plutôt italienne de la Renaissance, hein, et une Renaissance qui, petit à petit, lève comme du bon pain, si j'ose dire. Hein, mais qui vraiment se déploierait au 16e siècle, pour, vous le disiez après, hein, se poursuivre tranquillement un peu après le 16e siècle et, je vais dire, garnir les premières décennies du 17e. On pourrait dire quelque chose comme ça. Mais enfin, le 16e siècle reste le noyau dur de ce que nous appelons aujourd'hui la Renaissance.
L'importance des mécènes.
Pardon ?
L'importance des mécènes.
Alors, c'est vrai que les mécènes jouent un rôle important à cette période. Bon. Ils avaient joué un rôle important aussi au Moyen-Âge. Hein. Ce n'est pas l'interdit de Bourgogne qu'on veut dire autre chose.
Mais aussi, hein. Aussi les livres qui se répandent.
Les
livres.
Alors, très important, évidemment, de le signaler. Voilà. Et pourquoi l'imprimerie, effectivement, qui commence. À quel moment, d'ailleurs? Gutenberg.
À peu près 1453.
Voilà, hein, c'est le 15e siècle, c'est le siècle du début de l'imprimerie, pourrait-on dire. Hein. Même si on a commencé à faire des bois gravés, imprimés avant, mais effectivement, le 15e siècle, c'est le grand moment de l'imprimerie. Et pourquoi l'imprimerie a tant d'importance par rapport à la Renaissance?
Parce que ça a dû aussi amener de nouveaux sujets pour les peintres, pour les.
Oui.
Et puis c'est répandu
C'est que à la fois l'imprimerie porte de nouveaux sujets, voire de nouvelles représentations. L'imprimerie, c'est l'imprimerie des textes, mais aussi des images. Hein. Mais c'est aussi une diffusion qui évidemment n'a plus de rapport avec les manuscrits. Les manuscrits, ça s'écrit à la main. Hein. Et forcément, on en on en fait moins. Hein. Alors que l'imprimerie permet effectivement d'imprimer davantage, diffuser davantage de textes, mais qui sont imprimés et pas un à un écrits à la main.
Les textes littéraires en langue vernaculaire.
Alors, il y a aussi le fait que il y a le fond et la forme. La forme, on vient de le dire, l'imprimerie permet de multiplier effectivement les textes et de les diffuser beaucoup plus. Il y a également donc ce que l'on publie, donc vous le disiez, hein, c'est aussi une période d'idées nouvelles. Et effectivement, il y a la question des langues, parce que jusque-là, par exemple, le latin était une langue très importante au niveau des textes manuscrits, mais petit à petit, les langues locales vernaculaires sont des langues qui sont de plus en plus utilisées. Donc effectivement, ça, c'est un élément qui compte aussi. La grande peste, c'est le grand phénomène du XIVe siècle, hein, mais qui se poursuit. D'ailleurs, je crois que c'est ici qu'on en a parlé la fois dernière.
À Marseille,
au début du XVIIIe, qui se prolonge encore. Enfin, mais il est vrai que la grande peste, à la fin du Moyen-Âge, dont le départ, c'est vraiment le milieu du XIVe, mais qui se poursuit jusqu'au XVe, hein, quand même, hein, est quelque chose qui va effectivement traumatiser l'Europe. Hein, parce que ce n'est pas une pandémie qui dure un an et demi. Hein, c'est vraiment une infestation qui décide la matière de population de l'Europe. Quand même, hein, c'est un sacré problème. Hein, ça va effectivement quand même beaucoup modifier ça. Et c'est effectivement une sorte de palier qui, quelque part, est juste avant la Renaissance, d'une certaine manière. La grande peste, c'est effectivement un des éléments, parmi tous ceux que vous avez cités, hein, qui prépare cet élément capital qu'est la Renaissance. La grande peste n'est sans doute pas non plus pour rien dans cette émergence de la Renaissance, effectivement.
Il y a aussi le retour aux textes anciens,
oui,
précis, et non pas les commentaires des commentaires.
Et quand vous parlez des textes anciens, vous pensez aux textes
grecs et aux
voilà, grecs. C'est ça. Aux textes antiques, effectivement. Donc, évidemment, le retour aux textes antiques est très important. Et effectivement, ce n'est pas simplement leur interprétation, c'est les textes eux-mêmes. Hein, qui sont donc. Alors, qui n'avait jamais été tout à fait oublié, le Moyen-Âge n'a jamais oublié l'Antiquité, mais là, évidemment, le texte antique retrouve une première jeunesse et le texte lui-même, souvent, oui, voilà. Vous avez raison. Donc, ça, c'est très, très, très important.
L'intérêt pour l'homme aussi.
Pour
l'homme. Enfin, pour les hommes.
Et hein, d'ailleurs, comme ce qu'on appelle ce courant-là,
l'humanisme.
Hein, l'humanisme, c'est évidemment un condamné. Effectivement, l'homme devient vraiment au centre de ce jeu-là. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a Dieu, hein, mais l'homme devient un élément central, une sorte de pilier. Enfin, le monde tourne, quelque part tourne autour de lui. Une fois, Dieu n'est pas éliminé. Hein. Mais enfin, voilà, il y a d'autres choses qui seraient à dire autour de ça.
C'est la réforme et la contre-réforme.
Alors voilà, il y a la question de la réforme qui est quand même très importante. Hein, parce qu'après tout, Luther. Voilà, enfin, la réforme, c'est également un élément qui surgit à cette période, hein, et la religion est importante. Hein. L'homme prend de l'importance, effectivement, mais Dieu n'en a pas moins d'importance non plus. Et il y a donc des discussions autour du type de vénération à Dieu et du rapport à Dieu qu'on doit avoir. C'est la question de la réforme. Pardon.
On prend des degrés de liberté par rapport au clergé,
oui,
qui était omnipotent et omniprésent.
C'est vrai aussi, on a un regard peut-être plus critique. C'est vrai que le clergé, on pense aux abbés, mais au clergé séculier également, hein, il est effectivement extrêmement important au Moyen-Âge. Enfin, c'est un élément qu'on n'y a pas à la tête des gens tellement le contester. D'une certaine manière, on trouverait évidemment des contre-exemples. Mais évidemment, avec la Renaissance, on a une religion différente, puis il y a des regards sur la religion différents. La réforme, on est évidemment.
Et est-ce que c'est ces regards, ces interrogations sur l'humain, qui font aussi, qui introduisent quelque part la perspective?
Alors,
est-ce qu'aller jusque-là, dire que l'œil et la manière de regarder, s'articule sur cette nouvelle façon d'appréhender.
C'est ce qu'on a beaucoup dit, et c'est sûrement assez juste, hein, parce que cet intérêt, et c'est-à-dire cette prégnance de l'homme, cette mise au centre de l'homme, au centre du jeu, est également une mise au centre de ce que l'homme est capable de créer, c'est-à-dire des sciences qu'il réalise, fussent-elles d'ailleurs inspirées par Dieu. Hein. Et donc, la perspective, c'est aussi ça. c'est, j'allais dire, de la mathématique. Et cette manière de trouver, de géométriser l'espace, d'une certaine façon, hein, de faire de la 3D. Donc, oui, la question des sciences en général, et de leur... vous parlez de la perspective, mais il y a plein d'autres sciences qui viennent. On sait que l'anatomie, etc., vont connaître de grandes évolutions.
C'est surtout les grandes expéditions, c'est l'époque où il y a les grandes expéditions maritimes, avec la découverte du Nouveau Monde, le passage avec le détroit de Magellan, etc.
Aussi.
Donc, d'autres cultures, d'autres ouvertures.
Aussi. Et alors justement, cet élément important, vous disiez là, c'est la découverte d'autres lieux. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que ça peut suggérer comme idée par rapport à la Renaissance? Parce qu'effectivement, on découvre l'Europe, découvre d'autres lieux, d'autres univers, il se passe autre chose dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire justement par rapport à ce mouvement de la Renaissance?
L'Europe n'est pas le centre du monde, contrairement
voilà.
Au monde où on avait cru.
Ben, en tout cas, qu'elle n'est pas le seul. Parce que quand on dit le mot Renaissance, c'est quand même à l'Occident. C'est l'Occident qu'on évoque. Hein. C'est de l'Occident dont il est question. On ne peut même pas dire la Renaissance occidentale, parce qu'il n'y a pas de Renaissance orientale, ou américaine, ou que sais-je. Voilà, le mot Renaissance est une notion occidentale. C'est pas pour ça qu'il est mal, d'ailleurs. Hein, parce que, vous savez, on passe un peu d'une extrême à l'autre. Hein. Longtemps, on n'a pas évoqué du tout le fait que l'Occident, ça existait, mais qu'il y avait aussi d'autres lieux dans le monde où il se passait des choses. Aujourd'hui, on a quelquefois l'impression qu'on se flagelle en permanence et on a presque honte de dire qu'on est occidental, parce que je crois qu'il faut accepter les deux. Quoi. La Renaissance, c'est une notion occidentale. Voilà, assumons ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien d'autre dans le monde, hein, que dans le monde, tout est nul. Hein. Mais la Renaissance, c'est une conception occidentale et qui, effectivement, correspond à un moment où on commence à voir, mais encore plus prégnante qu'avant, qu'il se passe autre chose, qu'il y a d'autres cultures dans le monde. Quoi, hein. Alors après, les rapports avec ces cultures sont quelquefois un peu spéciaux, hein, voire beaucoup. Mais la Renaissance correspond effectivement à un moment où on explore davantage. Alors, le Moyen-Âge connaissait l'Afrique, connaissait l'Asie. Hein, voilà, c'est pas l'Amérique. Enfin, on a commencé à la fin du Moyen-Âge, c'est en 1992, c'est vrai. Mais voilà, et encore, il y aurait des choses à dire là-dessus.
Oui,
c'est vrai.
Parce que
pardon.
Il y a quand même des. Par le Nord, etc.
Voilà, Vikings, etc.
Les glaciations ont fait que.
Voilà, absolument. Mais c'est malgré tout assez léger, si j'ose dire, et ça n'a pas eu d'influence. Non, la découverte, avec 3000 dix, mais la découverte de l'Amérique, va effectivement quand même modifier les choses. Ça fait quand même partie des éléments qui, en Occident, hein, modifient beaucoup de choses. Si j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la découverte, la relecture des textes anciens, etc. Donc il y a évidemment ce lien avec l'Antiquité, hein, parce que c'est de ça dont vous parliez, hein, au niveau des textes seulement.
Non, au niveau de l'art
aussi. Voilà, de l'art en général.
En général.
L'esthétique antique revient. Alors, encore une fois, vous savez, on est là en train de baliser notre notion de la Renaissance. D'une manière, on dit beaucoup de choses hein, qui vont nous être utiles à la Renaissance qui vient. Mais le Moyen-Âge n'a jamais ignoré l'Antiquité. D'ailleurs, vous l'avez dit au niveau des textes. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'on va un peu s'enfuir, aussi, vous le disiez, hein, reprendre contact avec l'Antiquité, notamment au niveau esthétique, au niveau des œuvres d'art plastiques. Et ça aussi, c'est un élément nouveau. C'est à la Renaissance, regrouper l'Antiquité, se la réapproprier, et de manière plus directe, sans doute, qu'auparavant. Quoi, hein. Tout ça, c'est donc des éléments, effectivement, capitaux, qui, définissent ce courant occidental qu'est la Renaissance. Est-ce qu'on verrait encore d'autres choses, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on a à peu près balisé toutes les définitions qu'on pourrait donner à ce terme? Je crois qu'on a fait pas mal de tout.
On a vu des sciences.
Par l'humanisme, la religion, de ce qui pouvait se passer avant, qui avait été les traumatismes antérieurs, etc. Je crois qu'on a assez bien vu les problèmes de chronologie, de lieu, etc. Alors, et encore une fois, ce qui est peut-être quand même important de redire, pour terminer, c'est que, vous commencez à parler tout à l'heure, hein, c'est un nom qui a été plaqué après la Renaissance même, hein, par des avant-chercheurs, commentateurs, analystes du 19e sur cette période-là. Et il ne faut pas imaginer, j'allais dire, des murailles de Chine entre la Renaissance et le Moyen-Âge, entre la Renaissance et l'époque classique, par exemple, hein, en tout cas pour ce qui concerne la France. Hein. Voilà, c'est tout ça, les périodes rentrent les unes dans les autres. Après tout, on verra que, on pourrait peut-être dire, par exemple, que déjà, on est en Bourgogne, hein, déjà la Bourgogne, la problématique des Bourgogne a fait le Moyen-Âge, est-ce que ce n'est pas déjà une certaine Renaissance? Voilà. On est au 14e, mais est-ce que ce n'est pas à ce moment-là commence un certain nombre d'éléments que l'on attribue ensuite à la Renaissance, que ce n'est pas une sorte de pré-Renaissance, de première main. Par exemple, hein, on dit ça parce qu'on est en Bourgogne et qu'on connaît bien cette culture-là. Voilà, hein. Donc, il n'y a pas pouf le Moyen-Âge et vlant une muraille de Chine, puis pouf, on entre dans la Renaissance. Les choses s'interpénètrent beaucoup plus, c'est beaucoup plus subtil. Certes, il y a un noyau dur, vous l'avez bien défini, c'est le 16e siècle, il se passe des choses avant, il va se poursuivre des petites choses après, mais on ne s'est pas endormi un soir en étant gothique, et on se réveille le lendemain renaissant. Tu citais tout à l'heure le mot de flamboyant, qui était justement un bon exemple de ça, c'est-à-dire que le gothique flamboyant, c'est comme on a dit que le dernier feu du gothique, hein, qui justement quelque part assure cette espèce de transition entre l'extrême fin du gothique et le début de la fin du gothique, mais qui est le début de la Renaissance, justement. Donc, voilà, bah, je crois qu'on a effectivement dit beaucoup de choses qui vont nous être utiles. Donc, je vous propose maintenant de commencer. Je vais vous montrer 5 œuvres que je n'ai pas légendées ni rien. Paf, je vais vous les montrer comme ça, je vais vous les livrer. À nous d'en parler et de voir, puisque ces œuvres appartiennent à la Renaissance, hein, de voir des choses les concernant. Allez, on commence par ça. Alors, on commence peut-être par, par là. Là, vous connaissez mes petits, hein, la méthode à laquelle je tiens. Peut-être on dit deux mots sur les éléments très factuels, très matériels de cette œuvre. C'est quoi, c'est fait en quoi, c'est quel genre d'œuvre?
C'est une peinture.
Alors, c'est une peinture, voilà.
C'est une peinture qui est peinte. Oui. Qui représente
Saint-Luc.
C'est Saint-Luc, puisqu'il y a le taureau. Et puis il peint la Vierge.
Donc c'est Saint-Luc avec son taureau qui peint la Vierge. Okay. Bien. Ensuite.
Dans une architecture,
oui c'est très classique.
Une architecture très antique, oui. Justement. Ça ne nous étonne pas, vu ce qu'on vient de dire.
Mais il y a un astrolabe au niveau de...
Il y a...
Un astrolabe.
Un astrolabe. Oui,
dessus, au fond.
Oui. Oui.
Enfin, je ne sais pas si c'est un astrolabe ou ce qu'on appelle un globe armillaire. Je ne suis pas très doué pour définir ces instruments techniques. Je crois que c'est ce qu'on appelle un globe armillaire. Hein. Mais en tout cas, il y a un instrument scientifique.
Il y a une idée de culture, il y a des livres.
Absolument. On voit des livres à côté. On voit donc cet instrument-là. On voit les livres à côté.
Il y a des statues.
Oui, des statues.
Dans l'architecture.
Oui, absolument.
L'enfant Jésus porte un oiseau.
Oui.
Ce qui n'est pas fréquent.
C'est un oiseau ?
C'est pas fréquent. On voit plutôt avec des fleurs,
alors, vous voyez, on le voit quand même parfois au Moyen-Âge avec un oiseau, notamment c'est le Charles Donneret, qui a une petite trace rouge sur le front. La légende dit que c'est une trace du sang du Christ.
Celui-ci, on a l'impression que c'est un petit faucon qui est masqué.
On est entre le faucon et le perroquet.
C'est un masqué.
Je ne sais pas très bien ce que c'est, oui.
Ça t'étire, non ?
Alors, puisqu'on parle de l'oiseau, qu'est-ce que ça peut... Vous savez, on a, par exemple, à la Renaissance, hein, mais au XVIIe siècle aussi, on a très souvent des représentations d'enfants avec un oiseau. Notamment dans la peinture nordique, je pense à plein d'exemples. Hein, on voit un enfant, un bébé... Hein, il tient un oiseau. Souvent aussi avec un chien. La fidélité, pas forcément que ça. Et souvent, l'oiseau peut évoquer un peu la même chose que peut évoquer le chien aussi.
C'est un zeste de Saint-Esprit.
Alors, non, parce que dans ce cas-là, c'est vraiment une colombe, vous voyez, et c'est pas trop ça, à vrai dire.
Le dressage ?
Pardon ?
Le dressage.
Voilà, c'est plutôt l'idée du dressage. Hein, parce que, on va dire l'éducation. Hein. C'est-à-dire qu'un chien ou un oiseau, ils peuvent être dans la nature, et puis voilà. Hein. Mais un chien, c'est éduqué, et un oiseau peut l'être si on le met en cage, et donc on le. Voilà. Et donc la référence à l'oiseau, c'est l'idée. Est-ce que c'est ça ici? Je ne saurais le dire, mais peut-être. L'oiseau est souvent dans les tableaux, notamment nordiques du XVIIe siècle, la représentation de l'idée de l'animal qui va être mis en cage, qui va donc être dressé, qui va donc être formaté. Voilà.
Mais il y a une différence avec les époques antérieures. Ils n'ont pas d'auréole.
Non, effectivement. Effectivement. C'est... Qu'est-ce que ça vous suggère d'ailleurs ?
C'est Madame Tout le Monde qui pose.
Voilà, pour, c'est ça, c'est plus humain, c'est un peu Monsieur, Madame Tout le Monde. Hein. Donc il y a quelque chose de très quotidien. Alors Dintello, hein, à l'arrière, vous avez dit architecture antique, sculpture, instruments scientifiques, livres. Bon, tout ça montre un ciment intellectuel. Hein. Effectivement, on a là des personnages normaux. Qu'est-ce qui est présent ? Il y a des présidents normaux et des personnages normaux. Hein. Qu'est-ce qui là aussi, jouerait encore dans le sens de cette espèce de normalité que vous disiez là ?
Les visages ?
Oui, par exemple.
Celui du peintre ?
Oui, celui du peintre, effectivement.
Il reste presque un portrait.
Voilà, il reste presque un portrait. Alors, ça n'est, par parenthèse, pas celui de l'auteur de cette œuvre, parce qu'on a un autoportrait de l'auteur de cette œuvre qui ne ressemble pas du tout à ça, mais, comme vous dites, c'est vraiment un portrait. D'ailleurs, on connaît toute une série de peintures qui représentent Saint-Luc peignant la Vierge, où le peintre lui-même semble s'être autoportraituré. Mais il a aussi pu autoportraiturer d'autres gens, voire d'autres peintres. Hein. Donc là, on sait que le peintre qui a fait ce tableau, c'est pas lui qui s'est autoportraituré, mais ici, ce Saint-Luc ressemble à un portrait, vous avez raison. Il est tellement réaliste hein, que c'est pas un Saint-Luc idéal, mais sans lui, un Saint-Luc lui, qui reproduit les vrais traits d'un personnage. Enfin, d'une personne, plutôt. OK ?
La perspective.
Pardon ?
La perspective est bien marquée.
Justement, la perspective, absolument. Là, on parlait de perspective tout à l'heure. Hein. Là, elle est très bien marquée. On a l'impression, vous savez, qu'on pourrait tirer des lignes pour retrouver scientifiquement hein, l'organisation de cette perspective. Vous avez raison, là, elle est vraiment très, très visible. Hein. Ouais.
Entre les deux personnages, je trouve que le personnage de la Vierge, dans un allongement et dans les doigts, la manière, c'est presque pas, on ne le trouve pas chez le peintre, chez Saint-Luc, mais je trouve que chez la Vierge, c'est presque maniériste un peu.
Oui, qu'est-ce que vous dire d'ailleurs le mot maniériste ?
À la manière. À la manière.
Oui. Mais à la manière de quoi alors ?
De la Renaissance.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement. Le mot maniériste que vous avez utilisé souligne effectivement le fait qu'un certain nombre d'artistes, là, un peintre par exemple, travaille à la manière de, et à la manière de quoi ben, du grand tiercé gagnant italien renaissant que sont Michel-Ange, Raphaël
et
Léonard de Vinci. Hein. Ça, c'est le tiercé gagnant de la Renaissance italienne, on en reparlera bien sûr. Hein. Mais ces trois artistes ont eu un tel poids dans l'art italien, mais dans l'art occidental en général, hein, que beaucoup d'artistes vont ensuite intégrer leur manière à leur propre pratique. Et c'est ça qu'on appelle le maniérisme. Et vous avez raison, hein, là, cette Vierge, et notamment les doigts de la main, leur forme même. Hein,
le cou.
Voilà, le cou, le positionnement du buste, hein, tout ça, oui, les pieds, hein, tout ça est très, très maniériste. Il reprend une espèce de modèle des grands artistes italiens. Très bien. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire sur cette œuvre ?
C'est lumineuse, quand même.
Pardon ?
Et la lumière.
Oui.
Les couleurs sont juste devant et derrière, c'est monochrome plutôt.
C'est vrai, le devant est lumineux, enfin est coloré, l'arrière est plus monocorde, on va dire, sur le plan du ton, oui, c'est vrai.
Ça accentue la perspective.
Oui,
ça accentue
oui, c'est vrai, ça la rend encore plus lisible peut-être. Hein. Et qu'est-ce que je veux dire, sur le plan du sujet, Saint-Luc peignant la Vierge, bon, c'est une évidence.
C'est assez rare, non?
Pardon?
C'est assez rare qu'on représente. On commence à représenter des peintres.
Pourquoi
on l'a déjà vu?
Oui, on l'a déjà vu. C'est une chose que l'on présente dès le Moyen-Âge. Oui. Donc en fait, le sujet est un sujet finalement assez traditionnel. C'est intéressant, ce qu'on voit comme un sujet traditionnel que l'on traite au Moyen-Âge est là traité par un artiste de la Renaissance. Vous connaissez par exemple des peintres du Moyen-Âge qui auraient traité ça?
Si, c'est celui qui a fait Rolin, justement, qui peint avec la Vierge, c'est le grand peintre. Non. Pourtant, il est hyper connu. Vanek.
En fait, toute une série d'artistes de ce qu'on appelle la Renaissance nordique, mais qu'on met encore au Moyen-Âge, vont travailler vont faire ça. Donc on a un sujet finalement qui déjà a été représenté au Moyen-Âge, qui est là. Vous savez, ça fait partie de cette légende qui entoure les saints. Hein. Jacques de Voragine, je ne sais jamais si c'est au 13e ou 14e, je crois que c'est au 13e siècle. Et à cheval sur le 13e, 14e, écrit la fameuse légende dorée, et qui est un texte qui, j'allais dire, invente, tout en récoltant toutes sortes de traditions, hein, invente des vies de saints, va en particulier montrer que Saint-Luc a eu l'occasion de peindre l'image de la Vierge, et ce qui fait que Saint-Luc va être le patron des peintres. C'est l'Académie de Saint-Luc, en Italie, ça s'appelle l'Académie de Saint-Luc au XVIIe siècle. Il regroupe des peintres, c'est parce que Saint-Luc est le patron des peintres. Ok.
Alors, c'est une commande.
Pardon.
C'est pourquoi il y a un bœuf. Je ne connais pas l'histoire.
Ah, ça c'est l'emblème de Saint-Luc. Hein. Vous savez que les quatre évangélistes, rappelez-moi les noms.
Jean,
Luc, Matthieu,
Marc.
Et donnez-moi les symboles.
Jean, c'est l'aigle.
Marc,
c'est le lion.
Marc, le lion.
Luc,
c'est
le et Matthieu, c'est le livre.
Matthieu, ouais.
Jean, c'est le livre.
Alors là, on l'a dit, Jean. Donc, Jean, l'aigle. Luc, le taureau. Marc, le lion.
L'ange.
Voilà, l'ange. Précisément, l'homme ailé.
C'est
un homme qui a des ailes. Un ange. C'est saint Matthieu. Donc, chaque évangéliste a ainsi ce symbole. Ces symboles ont été vus par saint Jean dans l'Apocalypse. Et il décrit un très beau texte, très poétique, hein, cette vision du ciel. Chaque évangéliste est à la fois accompagné et représenté par un démon, on appelle ça le tétramorphe. Et donc, l'emblème de Saint-Luc, c'est le...
Et c'était classique dans l'époque romane.
Ah oui, absolument.
Dans les églises, en
fait. Tout à fait.
En sculpture architecturale.
Voilà, dans beaucoup d'églises romanes, quand on voit le Christ qui apparaît dans une mandorle, très souvent dans les équations, on a ces quatre personnages ou animaux qui symbolisent l'évangéliste. Absolument. Donc voilà. Donc le taureau est normal, c'est lui qui permet d'identifier sans hésitation Saint-Luc. Alors reste maintenant à savoir qui est le peintre. Ou alors où est-ce que vous le situez si vous ne le connaissez pas. Et peut-être à quel moment la Renaissance entre. Parce qu'on est la Renaissance, c'était en gros 15-16e, et puis même un peu plus. On a même dit que dès la fin du 14e, on pouvait y voir les prémices, que ça durait jusqu'au début du 17e, la Renaissance. Et le noyau, c'est le 16e, mais enfin, ça commence avant, ça finit un peu après. Vous mettriez ça quand?
Le côté maniériste, ça voudrait dire tard.
Tard? C'est-à-dire une décennie peut-être. Ouais.
Vers la fin du
1580 Ouais. Ok. Jetons-nous à l'eau, on est entre nous. Hein, on peut tous dire. Hein. C'est pas un problème. Il n'y a pas de.
C'est le côté maniériste qui me fait dire ça, de la manière.
Oui, c'est un bon calcul. Hein. Et d'accord. Et alors, ça a été fait où, ça? Alors, est-ce que d'abord quelqu'un connaît le nom du peintre?
Non.
Et ça a été fait où, ça?
En
Allemagne.
Dans le Nord.
Nord,
Flamand.
Flamand.
Ouais, pays flamand.
Le cadre est bizarre.
Ah, le fait que ce soit en haut comme ça, oui. Alors, je pense que c'est original. Est-ce qu'à l'origine, ce n'était pas comme ça et qu'on a coupé, etc. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je pense que dès l'origine, c'était comme ça. On trouve des tableaux qui ont servi quelquefois. Vous savez, quand un retable se ferme, on a parfois voilà, cette forme-là. Là, ce n'est pas un retable, hein, mais on retrouve cette forme-là, donc ce n'est pas, voilà, c'est pas inédit.
Il est connu, ce peintre ?
Je ne saurais pas vous dire.
Non, moi, je
ne sais pas. Ce n'est pas un peintre au firmament de l'art européen du 16e. Voilà. Voilà. Mais voilà, il a une certaine importance. Hein.
Ben oui.
Mais il y en a tellement. voilà. Alors, là-bas, ce que j'ai entendu, c'est que vous êtes quand même plutôt tous pour le Nord, non ?
C'est
pas
vrai.
J'ai entendu Allemagne, j'ai entendu Flandre, j'ai entendu Pays-Bas. Donc je crois comprendre quand même que c'est plus vers le Nord que vous dirigez.
Oui.
Vous êtes tous OK avec ça ?
Non.
Non.
Toujours.
Ceux qui pensent que non, vous verrez quoi ? Pardon ? Vous plutôt Italie ? Ouais.
Les Italiens, je trouve que en général, les couleurs sont plus...
Les couleurs
Donc j'entends une majorité de Nord, mais quelques touches italiennes.
Pour le soleil. Non, le pied ne serait pas aussi fort, aussi... serait plus délicat.
Ce réalisme-là me semble plutôt nordique, c'est ça ?
Oui.
Bien, bah écoutez, on verra tout à l'heure. Hein, parce que là, je vais vous passer. La... Ah oui, je vais passer la deuxième œuvre. Pardon ? Allez, la deuxième.
Ah, ça, c'est Donatello.
Ah, c'est plus célèbre. Donc, Donatello. Bien. Alors, c'est une sculpture en bronze. Qui est à Florence au musée du Borgello,
et qui représente David.
Alors on me rappelle un peu qui est David.
C'est le roi d'Israël.
Oui.
Quand il était jeune berger.
Alors au départ, il est différent d'un simple berger. Pourquoi est-ce qu'il va devenir roi d'Israël ?
Parce qu'il est choisi.
Par qui ?
Par Dieu.
Oui, mais sur terre, il a été choisi par quelqu'un d'autre.
Par Saül.
Par Saül, oui, ou Saul. Je ne sais jamais ce qu'il faut dire. Parce que c'est S-A-U très mal, alors que c'est Saül ou Saul, je ne sais pas. Bon, on se comprend, tout se comprend. Et pourquoi ?
Parce qu'il a battu Goliath. Hein.
Oui, mais Saül ou Saul l'a choisi aussi pour une autre raison, qui, je crois, est antérieure au fait qu'il ait vaincu Goliath.
Saül avait fauté, non ? Et puis,
Saül, il a fait des tas de choses pas bien.
Il devait être remplacé.
Oui, mais c'est quand même lui qui a choisi, et il y a une raison très factuelle, très poétique et sûrement très symbolique. Il y a une
histoire de musique.
Il y a une histoire de musique, absolument. Parce que Saül aimait beaucoup la musique, David jouait de l'harpe, vous savez, il est très souvent présenté avec une lyre ou une harpe. C'est une sorte d'Orphée biblique. Et voilà. Donc il le choisit. Et évidemment, le grand fait de David, c'est qu'il a vaincu Goliath, qui
un philistin.
Un philistin. Une sorte de général philistin. Voilà. Donc opposé aux tribus d'Israël, dirons-nous. Et Goliath. Alors David va vaincre Goliath, qui est un énorme géant. Alors David est un petit mec. Et il va le vaincre, on sait bien, avec sa fronde. Il va envoyer.
Il tient une pierre.
Il tient une pierre, hein, vous voyez, dans sa main gauche, donc la main droite. Il tient une pierre qui est évidemment une référence à la pierre qu'il a envoyée dans le front de Goliath, qui fait que Goliath est mort. Alors c'était un espèce d'immense géant. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire aussi ?
Il va lui couper la tête.
Il va lui couper la tête.
Après, il lui coupe la tête.
Ce qui fait que.
Eh ben, on le voit avec l'épée.
Il tient une... C'est l'autre tribu qu'il a. Il tient l'épée qui va lui servir à couper la tête de Goliath. Okay. Donc, on voit là David qui tient une épée, qui tient une pierre. Qu'est-ce qu'on voit encore ?
Il a un chapeau.
Il a une espèce de chapeau. Ouais.
Il a un chapeau. C'est bizarre.
Un chapeau ? Le qualifieriez comment ce chapeau ?
Pardon ? Un casque.
Oui, alors c'est une sorte de chapeau plat. Vous disiez quoi, pardon ?
Un casque.
Oui, alors c'est vrai que ça ressemblerait assez volontiers à une espèce de casque.
Mais
il
y a une espèce de
feuilles. Alors voilà, il y a dessus une espèce de feuille.
Une couronne.
Une sorte de couronne. C'est un peu bizarre, un casque avec une petite couronne.
Non,
c'est normal.
C'est le symbole de la royauté.
Alors la couronne, oui, mais une couronne de feuilles.
Oui.
On commence moyen.
C'est
peut-être
les lauriers. Oui, c'est pas pour les victoires, les lauriers, toi.
Ah oui, alors est-ce que c'est des lauriers?
Ça ne ressemble pas beaucoup.
Ça ne ressemble pas trop.
Non, ça ne ressemble pas trop.
C'est des lauriers fanés.
Oui, c'est. En fait, ce que moi, ce chapeau-là m'a toujours surpris dans cette œuvre. Alors, les gants, on a l'impression d'une sorte de chapeau métallique, de casque, entre guillemets. Mais un casque, c'est une chose qui vous prend plus la tête. Hein. Là, c'est une espèce de, on dirait le plat à barbe de Don Quichotte, vous savez, qui dit, c'est tout plat, un coup là-dedans, puis ça valse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors, moi, ce que j'ai lu récemment là-dessus, et qui me... Enfin, me paraît assez juste, enfin, je ne suis pas un spécialiste de Donatello, parce que c'est bien une œuvre de Donatello, c'est qu'en fait, il s'agit d'une sorte de chapeau rustique. Vous voyez ? Un de ces chapeaux qui est qu'on est berger, parce que quand on est un berger, on est en plein soleil. Hein. On a un petit chapeau sur la tête bah, pour se porter du soleil. Hein. Et puis, bah, un berger, vous savez, il tresse des machins, il se met une cour. Donc, en fait, c'est plutôt pour montrer la rusticité du personnage. Vous voyez ce que vous dites ? On n'a pas un grand chevalier hein, avec un casque sur la tête. Hein. On a vraiment un berger qui a un petit chapeau sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait ça. Hein. Il n'y a pas, en fait, un casque métallique, voilà, mais un petit chapeau rustique, décoré à la rustique de petites feuilles tout bête. Ah oui, bonne question.
On dirait un bouclier.
De quoi ?
Madame disait, mais il a des pieds sur quoi ? C'est la tête de Goliath. Il a les pieds sur la tête de Goliath. Ce que vous voyez là, c'est la tête de Goliath. Vous voyez donc la visière du casque. Alors Goliath, il a un casque. Hein. Goliath, c'est un guerrier de chez guerrier. Hein. C'est pas un petit berger qui vient. Goliath, c'est un guerrier. Hein. Donc vous voyez la visière du casque, vous voyez le nez de Goliath. Voilà un œil, voilà l'autre. Et ça, c'est la barbe de Goliath. Et puis, ben, il a la tête coupée. Quoi. Donc il a effectivement un pied sur la tête de Goliath. Hein. Et bien alors Goliath, il a un casque avec deux ailes. Comme les Gaulois, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que les Gaulois n'ont jamais eu des casques à ailes. Hein. Mais il y a une aile qui est là, qui vient contre la jambe de David, et une autre là, et comme ça, David pose son pied sur l'aile du guerrier qui l'a terrassé. Donc voilà pour l'analyse de cette œuvre. Peut-être encore un petit détail, si on veut regarder cette œuvre encore, au niveau de ce qu'elle nous montre, enfin. Un élément que je trouve intéressant et important.
C'est son air absent.
Il a un air.
Il a un air absent.
Oui, c'est vrai qu'il a un air un peu absent. Il regarde un peu comme ça en bas. Alors, il est vrai que l'œuvre était faite pour être assez haut, sur une espèce de pilier. Et vous voyez le dessus d'ailleurs. Et donc, effectivement, il était regardé du bas. Hein. Donc, quelque part, on peut dire qu'il nous regarde. Hein. Mais. Il a effectivement un regard un peu absent. Ouais. Ouais.
Il est nu,
complètement nu. Oui, alors voilà, une espèce de guêtre, on va dire. Hein. C'est assez étrange, ça. Bon. Et donc ce chapeau bizarre, on a parlé. Ouais. Et ça vous inspire quoi ?
Eh bien, les sculptures classiques.
Des classiques
grecs,
voilà.
Dans l'antiquité, mais comment...
Donc ça vous inspire, et c'est manifestement ce qui a inspiré Donatello, puisque c'est bel et bien lui, ça fait beaucoup penser à des sculptures antiques.
Oui,
donc là, on aurait...
Les hommes qui représentent pas les nus,
un contrapposto, voilà. C'est à la fin avec les hanches et les
gibbons. Alors vous avez utilisé un terme qui est intéressant, le contrapposto. C'est quoi ?
C'est l'inclinaison des hanches et des épaules qui sont opposées.
C'est ça. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une manière de se tenir sur un
contrairement au contrapposto.
C'est ça, c'est-à-dire que y a le corps, pour regarder l'équilibre, il penche dans un sens, laissant libre l'autre partie du corps, d'une certaine manière. Donc ça, l'idée du contrapposto qu'on voit là, est quelque chose qui a été très travaillé dans la sculpture antique. Hein. Vous pouvez citer des sculptures antiques qui ont beaucoup travaillé ça.
Les Vénus, notamment.
Par exemple. Et vous pensez à quelques sculpteurs antiques qui... Je pense à Praxitèle, par exemple. Hein, ou Scopas, ou Lysippe. Hein, voilà. Autant de sculpteurs antiques qui ont travaillé beaucoup. C'était dit du contrapposto. Pour nous, ça paraît évident, mais si vous voulez, dans l'Antiquité... Les sculpteurs ont beaucoup travaillé, c'était du contrapposto, c'est-à-dire d'une jambe d'appui et de l'autre côté du corps qui est libre et qui permet finalement des jeux avec le corps. Hein. Quand on présente toujours des gens nus, il faut quand même varier le plaisir, si vous voulez. Hein. Donc le contrapposto, plus ou moins abusé, permet justement ça. Donc effectivement, on a là un personnage nu qui se réfère complètement à la sculpture antique, les Lysippe et autres, Praxitèle par exemple. Parfait. Et alors vous situez ça quand ? Parce que je rappelle que l'œuvre précédente, que vous voyez plutôt nordique, même s'il y a quelques Italiens disant, hein, l'œuvre précédente, vous la situez plutôt à la fin du XVIe. En tout cas, c'est ce que vous défendiez. Hein. Là, vous mettez ça quand ?
C'était plutôt.
Plutôt.
C'est le
XVIe tôt.
Oui.
Genre 1510, quoi. Un petit 1510, 1520. Fin 15e ?
Oui.
Carrément plus tôt, alors. Ah non, tôt. Donc on hésite entre fin 15e, 1480, je dirais. Ça vous va, ça ? On hésite entre 1480 et 1520. Ça fait ça, presque 50 ans, ça. Mais bon, à la louche, oui, c'est une bonne marche. Ça vous va, c'est comme
fourchette ? Ah oui, il faut nous laisser de la marche.
On vous laisse la marche. Donc 1480, 1520, tout le monde est OK ? Personne ne sort de ces... Ça vous va ? Ouais ? Tiens. On passe à la troisième. Facile aussi.
Alors, en étape
fermée.
Le regard.
Alors, d'abord, on parle de l'œuvre, c'est quoi ?
Une
peinture sur bois.
Un diptyque.
Un diptyque. Alors, on voit effectivement quatre personnages. On peut identifier Saint-Pierre. Il a la clé. Hein, donc ça, facile. Hein.
Saint-Paul en
face. Qu'est-ce qui vous permet d'identifier Saint-Paul ?
L'épée.
C'est l'épée. Hein. Donc ce personnage-là qui tient l'épée, il tient un livre et une épée, ce serait donc Saint-Paul. Okay. Pourquoi il y a une épée, Saint-Paul ? On lui a tranché la tête, donc ses instruments sont
partis. En tant que citoyen romain.
Pardon ?
En tant que citoyen romain.
C'est ça ? Quoi d'autre ? Qui d'autre ?
Après, il y a encore deux saints.
Après, il y a encore deux autres saints.
On ne voit pas bien. On ne voit rien du tout.
Ah oui, on ne voit pas grand-chose. Hein. Il y en a un qui tient un livre et l'autre qui tient un rouleau manuscrit.
Ah oui, ce sont les évangélistes, peut-être.
Ah, c'est peut-être deux évangélistes.
Qui correspondent à chacun.
Ah oui, ce serait pas mal, quoi.
Alors, si c'est avec Saint-Pierre, ça pourrait être Saint-Marc.
Saint-Marc, c'est une possibilité.
L'autre, je ne sais pas.
Donc, vous verriez Saint-Marc à gauche, c'est ça, et l'autre, on ne sait pas trop.
Okay. Peut-être.
Bien. Il a une tête de trou.
Oui, il a effectivement une tête.
C'est plus à Judas que...
Il y a Judas parmi des saints si illustres, ça dénoterait. Alors, ces quatre personnages, donc quatre saints, ça vous va ? Hein ? Vous en diriez quoi ?
Ça correspond vraiment à la fin du Moyen-Âge.
Mmh. Oui. Donc on est dans une structure très médiévale encore, jusque dans l'idée de ces deux panneaux.
Oui, et nordique.
Pardon. Et plutôt nordique. Ok. Ouais. Donc une chose encore très médiévale, plutôt nordique.
Je sais pas. Parce que justement, la tête presque
culturelle. Presque culturelle, effectivement.
Moi, je le ferais plutôt en Espagne, parce que la tête...
Ah, en Espagne.
Bah oui,
C'est votre patibulaire du fond, là.
Oui, c'est ça. Une tranche espagnole. Je sais pas, la représentation, l'horizon, le regard, la façon dont il est vêtu, je sais pas. Effectivement, plutôt
Espagne.
Début, oui, effectivement.
Qu'est-ce qui fait que cette œuvre dont vous avez souligné le côté encore très médiéval, hein, à juste titre, je crois, qu'est-ce qui fait qu'elle est quand même renaissante ?
Ah. Il n'y a pas de doré.
Effectivement, il n'y a pas de doré. Donc, voilà quelque chose qui, effectivement, nous détacherait un peu, hein, du Moyen-Âge, notamment du Moyen-Âge italien, où les fonds dorés sont, selon la règle, du moins, un élément très fréquent, pour valoriser les images, hein, à la Byzantine.
On dirait presque un peu de réalisme sur les mains et sur les visages.
Oui, je crois que ça, c'est effectivement important. Notamment, votre personnage patibulaire du fond, dans le genre réaliste, c'est quelque chose. Hein. Évidemment, les visages, vous avez raison, et les mains sont très, très réalistes. C'est-à-dire que ça... C'est peut-être quelque chose qui nous amènerait au mieux à l'extrême fin du Moyen-Âge, hein, et en tout cas loin de l'idéalisation médiévale. Vous savez, quand on pense au XIIIe ou au XIVe siècle, on sait sinon la Vierge à l'enfant. Pensez aux sculptures de Reims, par exemple. Hein. Tout ça sont des personnages généralement très idéalisés, hein, alors qu'ils présentent tel ou tel personnage, mais avec des traits idéalisés, tous un peu pareils. D'ailleurs, souvent les hommes et les femmes ont un peu les mêmes visages, sauf qu'il y a une barbe, c'est un homme, on n'a pas une femme. Enfin, voilà. Hein. Là, on a effectivement une manière de caractériser ça. On a l'impression que c'est presque autant de portraits différents.
Oui. Hein.
Oui. On retourne un peu ce que vous avez dit tout à l'heure pour le Saint-Luc.
Oui.
Il y a vraiment une espèce d'idée de portrait, comme si des gens avaient prêté leurs traits pour représenter Saint-Pierre, etc., Saint-Paul.
Il n'y a pas d'auréole là non plus.
Il n'y a pas d'auréole non plus. Non. Donc il y a ce côté personnages humains. Donc on parlait déjà de Saint-Luc tout à l'heure. Ok ? Bien.
Ouais.
Donc alors voilà, j'allais vous poser la question de où est-ce que vous verriez ça ? Vous parliez vous déjà de quelque chose de plutôt nordique. Hein. Donc vous verriez ça hors hollandais plutôt ? Vous êtes espagnol.
Et l'Espagne, bien sûr.
Donc on aurait des Espagnols influencés par le Nord. Mais par contre, il y en a d'autres, ils sont plutôt des Nordiques.
Pays-Bas.
Et vous situez ça quand ?
95.
Extrêmement 15e. Vraiment l'aube de la Renaissance. Fin 15e. Hein. Ça vous va, ça ?
Oui.
Bien. Un nom d'un artiste, peut-être ?
Non.
Qu'est-ce qui pourrait. Quels indices peut-on avoir pour situer la provenance du sud ou du nord là-dedans ?
Ah, ça c'est une question que je me pose très souvent.
Oui.
Je trouve que c'est vraiment à force de voir des œuvres que petit à petit on arrive à sentir ça. Mais je crois que des choses comme la question du réalisme, qui était un élément très renaissant, hein, mais qui est quand même quelque chose que l'on va voir beaucoup des sculptures dans les pays du Nord. Vous savez qu'en sculpture, c'est Klaus Sutter qui considérait comme en sculpture celui qui avait le réalisme en sculpture. Et lui, il est du Nord. Hein. C'est un Hollandais, mais d'origine allemande, qui aurait été du Bourgogne. Bon. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, c'est quand même une tendance assez nordique. Donc, effectivement, là, on pourrait se dire, bah, tiens, c'est plutôt du Nord. Sauf qu'effectivement, les gens du Nord sont souvent allés au Sud, notamment en Espagne. Hein. Peut-être qu'on évoquera d'autres cas. effleurer. Mais voilà, donc, enfin, c'est plus compliqué que ça, notamment à la Renaissance, où tout ce monde bouge quand même pas mal. On peut pas avoir des espèces de faux amis. Des influences du Nord, de la peinture du Sud et l'inverse. Tout à l'heure, on a vu chez un artiste que je vous attribue plutôt au Nord, hein, des éléments très maniéristes qui viennent du Sud. Donc, mais les choses sont mal dans l'autre sens. Donc c'est compliqué, mais je crois que c'est quand on a avalé de la peinture ou de la sculpture que petit à petit on arrive à ressortir ça. Il faut en voir beaucoup, beaucoup. Je vous montre le suivant.
Ouais. Une sculpture.
C'est du plat.
Pardon. C'est de la pierre. Un guerrier. Pardon, en armure. Ouais.
Il y a un blason. Deux aigles.
Oui, un aigle à deux têtes.
C'est plutôt germanique.
Ça fait penser effectivement à l'Empire. Hein. L'Empire, hein. Un aigle à deux têtes.
Le repos du guerrier.
Ouais. Donc c'est l'évocation d'un guerrier qui se repose. Ouais. L'idée d'un guerrier comme ça
qui se repose. Bah, il a deux épées. Enfin, il a un grand.
Et puis il a une armure quand même. Hein.
Il a une armure. Il a effectivement une sorte de glaive peut-être dans sa main, on va dire ça.
Et le côté aussi.
Et puis on voit la garde d'une épée. Ouais.
Mais il n'a pas de casque.
Non.
Ouais, pour dormir,
c'est pas bah oui, pour dormir, ça fait bling-bling, vous savez, quand on
ça pourrait être le rêve de... d'un personnage célèbre.
Donc ça pourrait être un personnage célèbre représenté en train de rêver. Vous avez une idée d'un personnage célèbre représenté en train de rêver comme ça? Donc, on a la représentation d'un guerrier en armuré, assis, en train de rêver et de dormir. Les armes, des armes sont sur le siège sur lequel il est assis. Et donc, ce serait un guerrier célèbre, peut-être, présenté en train de dormir. Mais lequel ? Difficile.
Il est décoré avec un médaillon.
Oui.
Les jambes, elles sont pas lisses.
Non, ben c'est l'armure, hein. C'est une armure décorée.
Les patates douées.
Pardon.
Les patates douées.
Non. La sculpture était toute seule comme ça.
Non.
Il y avait des choses autour. Autrement dit, je ne sais pas, il y avait quoi autour, quoi, peut-être.
C'est sur un tombeau, peut-être.
Ah, un tombeau, alors.
Oui, ça peut être le...
Ah oui, ça peut.
Un tombeau, alors. Alors là, ce serait tout à fait autre chose que ce que vous disiez avant. Parce que là, vous parliez d'un personnage qui rêve.
Un tombeau, il serait plus couché.
Ah, il serait couché.
C'est pas un gisant, c'est un dormant.
Un dormant assis.
Peut-être que la photo est inversée.
Ça pourrait être un ensemble, quand même.
Un élément d'un ensemble. Et qui représenterait quoi, alors, l'ensemble ?
Quatre statues. Je ne sais pas qui c'est. Ça pourrait être le dessus d'un grand... une représentation d'un grand tombeau avec des éléments de statues de chaque côté, par exemple.
Donc ça, ce serait un élément du tombeau qui pourrait évoquer quoi, par exemple ?
Eh bien, la vie du défunt.
D'accord, donc c'est la représentation du défunt.
Peut-être.
Donc ce ne serait pas un gisant, mais un dormant assis.
C'est la toison d'or, il a, non ?
Ah, une toison d'or ?
Non.
C'est une médaille, hein.
Avec une ficelle, donc.
Ouais.
Voilà, toison d'or.
Avec un lard. D'accord. Bien. Alors, Alors je vois qu'on patouille un petit peu au niveau de, je dirais, la définition de ce que c'est que cette sculpture, qui est grandeur nature. Et alors, même question, vous voyez ça où et quand? Vous voyez encore vers le nord, là? Non. Non, plutôt au sud. On retourne en Espagne, alors. Non.
Henri IV.
Alors, là, en France. Là, on retourne l'Europe. On a pensé au nord, on a évoqué l'Espagne, et on retourne en France. Alors, vous avez une préférence pour où? Je crois qu'il n'y a pas vraiment de préférence.
Non.
Je ne sens pas.
Non.
Et vous voyez ça quand? Tôt, tard?
Au milieu.
C'est vrai que c'est le meilleur moyen de ne pas trop se tromper. Allez, on est vers 1550.
Allez, on dit.
Bien, perdu pour perdu. Bien. Allez, on regarde la cinquième œuvre. Ça vous va?
Oui.
Peinture.
C'est une peinture, nous sommes d'accord.
Oui.
Le visage est très moderne.
Oui. Visage très moderne.
De moderne.
Voilà.
Ils sont hyper musclés, ces bébés.
Ah,
c'est
incroyable. Et deux du, hein. Puis deux du musclé. Bon, le sujet.
Une vierge
enfant. Et qu'est-ce qu'on en dit de cette vierge enfant?
Elle est très, très réaliste.
Très réaliste, par exemple.
Cet enfant, la manière dont cet enfant fourrage. Dans la
poitrine
de sa mère,
ouais.
Dans la tenue.
Oui, ça, c'est pas très académique, ces gens-là. Il met la main dans le corsage de sa mère. Pourquoi?
C'est la sainteté.
C'est la sainteté.
Pardon?
C'est la sainteté.
Sur la peinture, il y a des effets de transparence qui sont vraiment.
Oui, effectivement.
Par contre, les mains,
elles sont bizarres, elles sont
grossières.
Alors,
il y a que pousse.
J'ai entendu plusieurs choses. J'entends toujours sur les mains.
Ouais.
Vous disiez maniéré ou maniériste?
Maniériste.
Et c'est vrai que ce genre de main avec une sorte de liquette, hein, c'est vrai que les grands artistes dont les maniéristes se réclament, Michel-Ange et autres, ont d'ailleurs travaillé les mains d'une façon souvent plus, comment dire, expressive qu'on avait pu le faire avant. Hein. Les doigts, la façon dont ils sont posés, tout ça prend une place, un sens dans la peinture, l'art des grands de la Renaissance, retraillé par les maniéristes. Vous voyez? J'ai entendu autre chose là.
Ah si, j'ai compris. Je n'ai pas compris la main droite.
Dans le corsage au salaire.
Dans le corsage.
Ouais. Bon, tout à fait. Voilà, oui, il a la main dans le corsage au salaire.
Non, mais je n'ai pas bien vu.
Oui, c'est pas habituel.
C'est pas habituel. Et là, à nouveau, c'est très humain. Hein.
Mais il n'y a pas de fond.
Il n'y a pas de fond.
Oui, il n'y a pas de fond.
Non. Pas de fond.
Elle est assise,
oui.
Elle est assise. C'est noir.
Il n'y a pas de paysage.
Pas de paysage.
C'est très moderne. Voilà. Tout comme du contraste.
Voilà.
Le vidage. On disait qu'il était très moderne, ce vidage. Et je pense que c'est les contrastes qui font ça.
C'est vrai. Et alors, c'est la même chose. Vous voyez quand? Vous voyez où?
Voilà. Moi, je vois en Italie.
Oui. À Italie.
Ben, je trouve que les mains, les muscles du bébé ressemblent à Michel-Ange. Hein, son style.
Donc, quelque chose de très manieriste.
Ouais.
Après Michel-Ange, c'est lui, il a toujours la représentation des mains et des muscles assez, assez fort, même quand c'est des, ce sont des femmes. Des
oh, bah oui, quand on regarde la Sixtine, on a des muscles. Hein, ouais, donc, ce côté musculeux, y compris des mains, hein, c'est effectivement une raison de caractéristique de Michel-Ange. Tout le monde est OK pour l'Italie ?
Oui,
ouais, allez. Allons-y pour l'Italie. Ah, il y a aussi des gens du Nord ? Non, plutôt Italie. Et alors, c'est pareil, vous mettez ça au début, au milieu, à la fin. Vous allez dire milieu. Je vois venir avec vos gros savons.
Je dis plus.
Si vous aviez les 5 œuvres qu'on vient de voir, à les classer dans l'ordre chronologique. Ben, c'est la plus ancienne, si c'est pas
le
dernier.
C'est le
diptyque. Ouais. Donc le diptyque en premier. Ouais. Ensuite.
Ensuite, la
statue. Le bronze de Donatello. Mm-hmm. Ouais. Donatello, vous le classiez, vous le mettiez entre 1480 et 1520. Ouais,
c'est ça.
Donc on aurait le diptyque plutôt autour de 1450, milieu 15e. Mm-hmm. D'accord, hein, puisque c'est avant. Donc le diptyque vert, dont on a vu qu'il était très médiéval encore, hein, vers 1450, ensuite l'œuvre de Donatello, le David, fin 15e, début 16e. Okay. Après, il nous en reste trois, elle, il nous reste l'homme qui dort, donc sur lequel on flotte un peu.
Ah oui,
et puis
reste
le symbole.
Moi, l'homme qui dort, je
mettrai
en deuxième.
En deuxième, vous mettriez dès le 15e alors.
Enfin, juste à la jonction.
Parce que la jonction de quoi?
Des deux siècles.
La jonction des deux siècles.
Voilà. Je trouve la façon dont il est vêtu. Ouais.
Donc vous mettriez, un, les quatre, enfin le diptyque. Deux, vous mettriez le Donatello avant le Donatello.
Ça, là, on le comme ça.
Donatello, il vogue entre 1480 et 1520. Alors, évidemment, on peut mettre au milieu le. Voilà. Hein. Allez, on va les mettre ensemble, si
on
vous voulez.
Les déplacer.
À peu près ensemble. Hein. Et alors, après, il nous reste le Saint et Saint-Luc. Vous le mettez donc après, si vous voulez. Saint-Luc, vous le mettiez vraiment à la fin du 16e.
Oui, oui.
1480. Et ça
avant.
Donc, on aurait 1. Le diptyque, deux,
les deux statues,
les deux statues, un de Donatello et le bonhomme assis là, trois, quatre,
c'est
vous le mettriez avant ça,
ça,
tout le monde n'est pas dans le même. Donc on se dispute un peu sur ça, puis Saint-Luc ou Saint-Luc, puis ça.
On les met ensemble,
allez. Allez, on les remet.
Non, c'est le dernier.
Ça, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier, c'est le cinquième. Bien.
Il y a quand même un travail sur la perspective dans l'autre, ouais. Donc il fait que je le mettre plus tardif.
Moi, plus tardif, plus fin 16e.
Oui, oui, oui. Okay. Ouais.
Bien.
Bon,
regardez,
hein.
Bon. Alors on se met.
On va revenir. Je le sens bien.
Alors. On va petit à petit voir, là je les ai mis dans l'ordre chronologique, hein.
Ouais.
D'accord. On va commencer par le plus ancien. D'accord.
D'accord.
Plus ancien, c'est ça. Ah, donc c'est pas...
Moi j'ai dit qu'on le mettait en deuxième.
Ah, vous aviez dit deuxième, mais vous n'aviez pas dit premier.
Hein. Alors c'est quelle année ça?
Alors ça, c'est bel et bien Donatello. C'est première moitié du 15e siècle. C'est très très tôt.
Oui, mais l'Italie a commencé.
L'Italie a commencé tôt. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Le noyau de la Renaissance, c'est le 16e siècle en Occident. Hein. Mais on a vu que l'Italie avait un peu un tour d'avance. Hein. En fait, dès le 15e siècle, l'Italie, c'est la Renaissance. En tout cas, ce que l'on dit est la Renaissance, encore une fois, hein, c'est dans les pas dit, ben, moi, je suis parti de la Renaissance. Mais quand on lit rétrospectivement ça, là, on est en 1435-40, hein, c'est à l'époque, par exemple, où on fait pour vous donner un équivalent, où on fait le tombeau de Jean sans peur, qui est au musée de Dijon. C'est-à-dire qu'il vend une œuvre très... très, très, très étonnant, très innovant sur plein de niveaux, mais très gothique aussi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, on est à la même époque, et voilà ce que fait Donatello. Hein. J'avoue que moi-même, quand j'ai préparé ça, je me suis dit, non, mais c'est bien regardé, c'est bien. Ben, C'est bien ça. Hein, on est dans la première moitié du 15e. C'est quand même très, 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 très tôt. Donc c'est bien une œuvre qui est au Bargello, vous le disiez, c'est bien une œuvre en bronze, on a bien vu l'iconographie. Hein. Je voulais vous passer une autre œuvre de Donatello représentant également un David, parce qu'il en a fait deux de David. Donatello a fait ce David-là, 1435-1440, et puis il a fait auparavant ce David-là, au tout début du 15e. C'est intéressant parce que c'est quand même assez différent. Là, voyez encore un David. Alors, c'est déjà assez, entre guillemets, novateur, si vous voulez. Hein. Mais c'est quand même encore assez, pour faire vite, médiéval. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est encombré dans son vêtement. Enfin, voilà. Mais alors, en même temps, on voit ça en Italie, on ne voit pas ça en France à l'époque. Hein, mais...
Et on voit la tête de
Goliath. Voilà, on voit la tête de Goliath en bas. Là, elle est d'ailleurs bien visible. Hein.
Mais quoi, c'est...
Pardon ?
Il y a eu des hanchés aussi.
Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on a là une œuvre, on voit comment ce qu'il fera 30 ans après, hein, que je vous repasse.
Il est habillé,
hein.
Là, 1435.
Ah oui,
il est habillé, là.
Hein ? Là, on est, c'est quand même... Je trouve que le rapprochement des deux est assez étonnant. Hein. On voit quand même une évolution, si vous voulez. Hein. Et alors, vous aviez dit à propos de ça... que c'était aussi très inspiré de l'antique. Et je voulais justement vous montrer une œuvre antique qui a vraiment pu inspirer Donatello, c'est ça. C'est une œuvre qui a été faite justement d'après Praxitèle. Alors c'est une œuvre italienne, romaine si vous voulez, hein, qui date du 1er siècle. Vous savez que les Romains étaient très admirateurs de la sculpture grecque. Praxitèle est un sculpteur du 4e siècle avant Jésus-Christ, grec, qui a fait beaucoup d'œuvres, mais des œuvres qui étaient en bronze, et les Romains étaient tellement admiratifs de ces œuvres, notamment Praxitèle, que souvent ils en ont fait des copies en marbre. Okay. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a plus les copies en marbre que les originaux en bronze, parce que le bronze c'est fragile, ça se fond, et donc la plupart des sculptures grecques en bronze, originales, ont disparu. Par contre il nous reste les copies romaines en marbre. D'accord. Et c'est le cas pour ça. Apollon Soroctou, ça veut dire quoi ça ?
C'est parce qu'il a un lézard.
Qu'il a un lézard.
Oui, mais quel est le lien entre le mot soroctone ?
C'est comme
les sauriens. Les sauriens. Voilà, les sauriens. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce lézard ?
Il le chasse.
Il le chasse. Il est même plus ou moins en train de le tuer. Enfin voilà, en tout cas, soroctone veut dire tueur de lézard. Apollon sans clone. Pourquoi est-ce qu'il tue un lézard ? Il n'a rien fait, le lézard.
C'est un dieu qui est...
Il va représenter quelqu'un.
Ouais. Est-ce que ça peut symboliser quelque chose, le lézard ?
Les enfers,
non ? Les... Oui, plutôt l'enfer. Ça vient effectivement, le lézard, il vient du sol. Hein. Le sol, c'est effectivement l'enfer. Hein. Le lézard, il vient de dessous. C'est un peu comme le serpent. Hein. C'est un animal qui vient... du sous-sol, de la terre, hein. Plus ou moins vrai d'ailleurs, mais bon, voilà. Hein. Et donc, en ce sens, le lézard est un animal qui n'est pas favorable. Apollon soroctone évoque l'idée d'un Apollon qui élimine, si vous voulez, les forces maléfiques de la terre. Hein. Il tue le lézard pour éliminer ces choses octoniennes qui viennent de la terre, qui viennent du sous-sol. Hein. Donc, l'Apollon soroctone de Praxitèle était une œuvre en bronze du 4e siècle avant Jésus-Christ, qui a été très célèbre en son temps, tellement qu'on l'a beaucoup copié, on connaît peut-être deux dizaines au moins, hein, de copies plus ou moins bien conservées, plus ou moins entières, de la Proconsulatio de Praxitèle faite à l'époque romaine en marbre, comme celle-ci. Et j'aurais peut-être dû mettre la photo du Donatello à côté. Hein. Mais regardez bien ça, et regardez ça, bah, pareil. Mais on sent bien quand même qu'on a quelque chose de très très équivalent. Ok ? On voit bien comment Donatello a regardé. Bon, en Italie, il y avait plein de ces sculptures que les grands commençaient à collectionner, d'ailleurs. Hein. On les retrouvait dans les ruines antiques. Voilà, c'était très à la mode de collectionner ça. Donc, Donatello, il a vu tout ça. OK ? On regarde l'œuvre numéro 2 ? Pas trop mal.
C'est
celle-là. Vous aviez un peu été averti. Enfin, bon.
Oui, mais bon.
Oui, on n'a pas chipoté non plus.
Non, non.
Et cette œuvre est d'un artiste
très connu. Non ?
Albrecht de Dürer. Sauf que c'est plus tard que ce que vous imaginez. On est en 1525. Alors, vous aviez bien vu qui ça représentait. En fait, celui qui est à gauche, qui est bien énergisé, c'est Saint-Jean. En fait, vous savez, le plus Albert des Anglais, le plus jeune, c'est Saint-Jean. Ce sont les trois autres, Saint-Matthieu, Saint-Marc, Saint-Luc, en général, ils sont barbus, etc. Saint-Jean, il est joli. Donc, généralement, il est représenté comme ça, glabre. Et là, vraiment, bon, bah, c'est Saint-Jean, quoi. Or, derrière Saint-Pierre, vous l'aviez bien vu. Alors, j'aurais dû mettre Marc et Paul dans l'autre sens, je suis désolé. Parce que Saint-Paul, effectivement, celui qui tient l'épée, hein, était décapité. Et celui qui est derrière, c'est Saint-Marc. C'est pas évident, d'ailleurs, de le savoir. On le sait par d'autres raisons. Hein, mais c'est Saint-Marc, donc un des évangélistes. Voilà.
C'est une tête de lion.
Oui, quelque part. Il a un physique un peu léonin. Hein. Alors, vous avez souligné la structure très médiévale, hein, comme si on avait deux volets. Pourtant, c'est deux volets qui font une seule peinture. Vous voyez, c'est pas des volets d'un retable. Mais pourtant, ça fait ça. Donc, ça a un côté très archaïsant. Et vous avez également signalé, à juste titre, hein, c'est pour ça que vous l'avez mis beaucoup plus tôt, parce que bah, ça a l'air d'être plus tôt, si vous voulez. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Or, c'est fait finalement assez tard, 1925, voilà. Bon. Mais c'est un côté très archaïsant. Hein. Et ce qui est curieux, c'est que presque deux décennies avant, hein, Dürer, il a fait ça. Pardon. Tu me gourres. Il a fait ça. 1507, Adam et Ève. Ça, c'est antérieur.
C'est surprenant.
Alors là, qu'est-ce que vous diriez là-dessus?
Ça,
ça fait vraiment assez renaissance. Avec ce côté sculpture antique, on a Vénus à droite et Apollon à gauche, si vous voulez. Donc c'est Adam et Ève. Mais si vous voulez, c'est des Donatello en peinture, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On est là, dans une peinture vraiment très renaissante. Qu'est-ce qui fait que Dürer, en 1507, à l'orée du XVIe, il fait ça, 20 ans après, il nous fourgue les quatre saints que je vous ai montré.
C'est une commande.
Alors, oui, c'est un élément, mais il y a un autre élément encore plus important.
Il était devenu protestant.
Alors, c'est pas trop qu'il est devenu protestant, c'est qu'effectivement, le protestantisme a surgi. Et que bah, le protestantisme... ça, ça ne lui va pas trop aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la volonté de revenir un peu dans les clous. Mais ces licences là ne sont pas trop acceptables par la religion informée, du moins une certaine religion informée. Et si vous voulez, là, Dürer, qui prend une espèce de chemin très renaissant, hein, va un peu revenir dans le rang parce que, notamment vis-à-vis de ses commanditaires, c'était nécessaire. On acceptait moyennement ce genre de représentation dans l'Allemagne de plus en plus réformée qui entre dans le XVIe siècle. Donc effectivement, il y a une évolution de ce... Ce qui fait qu'il arrive finalement, après une œuvre qui a l'air un peu réactionnaire, si j'ose dire, hein, de ce fait-là, pour des questions, je dirais, de politique et de religion. On regarde la troisième œuvre. Eh oui. Bon, ça, c'est pas tout à fait là où vous la situiez. Par contre, vous avez assez bien vu le fait que c'était nordique. C'est de Martin van Heemskerk, alors qui est un Hollandais, hein, un Hollandais du XVIe siècle. Donc, je crois que vous aviez bien vu, hein, ce qu'il en était. Hein. Voilà. Vous aviez pas vu qu'il y avait même un sculpteur ici, hein, qui était en train de travailler, hein. Mais vous avez bien vu le côté comme ça, intellectuel, etc. Je crois que vous avez vraiment tout dit. Un petit détail intéressant, c'est que le petit Jésus que vous avez là, il est vraiment quasiment le copier-coller d'une œuvre de Michel-Ange, que vous connaissez sans doute, qui est le tombeau de Denis, qu'on appelle le tombeau de Denis, parce que c'est la famille Denis qui a commandé à Michel-Ange. Et quand vous regardez ça, c'est en gros l'équivalent du petit Jésus dans le tableau d'Heemskerk. Regardez là et là, hein. C'est quasiment une citation. Ça, c'est des choses qu'on trouve assez volontiers. Finalement, c'est un artiste maniéré, ça, vous l'avez dit. Et on a vraiment quasiment le copier-coller de l'un dans l'autre. Et ça, c'est des choses qu'on trouve très, très souvent. On a vraiment un artiste assez maniériste. Hein. On est au milieu du 16e. Voilà. Je montre un autre tableau de Van Heemskerk qui est, je trouve, assez éclairant. Hein. Parce que voilà un thème, alors la Pietà, un thème très médiéval. On a plein, hein, au Moyen-Âge, ici à Chalon, etc. Hein, la Pietà, vous connaissez ce thème. Là, on voit quand même comment Heemskerk se départit de la manière de présenter les Pietà traditionnellement médiévales. Regardez notamment le corps du Christ au premier plan. Hein. On est quand même là, dans un traitement. Dans un traitement, on parlait de musculation, etc. tout à l'heure. C'est, j'allais presque dire, une espèce de là aussi, hein, de photographie de Michel-Ange qui serait mis au milieu du groupe. Quoi. Et je ne parle pas des figures tout autour, avec ce que vous avez déjà dit, hein, de l'introduction de l'humain. Regardez, par exemple, ce personnage-là, hein, ou cette tête-là, enfin, voilà, qui sont, ou celle de la Vierge, hein, qui ne sont pas des visages un peu idéalisés hors du temps, mais vraiment qui se rapportent à l'humain. Enfin,
voilà. Les vêtements font orientaux, je crois.
Oui, c'est bien un élément qu'on voit apparaître de plus en plus, qui existait déjà dans les œuvres médiévales. Hein. L'Orient est présent dans les œuvres médiévales. On trouve des tapis d'Orient à l'arrière, des Vierges et l'Enfant, etc. C'est une chose qui existe, mais on va beaucoup aimer. L'Orient aussi est signe de luxe, de subtilité artistique, etc. Donc souvent, on ajoute des éléments orientaux qui viennent enrichir l'œuvre, c'est vrai. Hein, lui donner une sorte de préciosité complémentaire. Hein. Quatrième œuvre.
C'est celui-là. Non, c'est qui celui-là ?
Ah ! Et c'est d'où ?
C'est français.
Eh bien, c'est bien français.
Et c'est bien un tombeau.
Et c'est bien un tombeau. En fait, c'est un tombeau. C'est-à-dire que ce n'est pas un gisant, c'est un dormant assis. Donc c'est assez intéressant parce que... Alors, Pierre Bonton est un artiste, on ne sait pas grand-chose. Hein, mais c'est lui qui est l'auteur du tombeau de Charles de Bénigne, vous voyez là. Évidemment, c'est intéressant ce que vous avez un peu flairé là, tout à l'heure, le fait que c'était un tombeau. Hein. Et donc, c'est intéressant de voir comment on passe vraiment du gisant médiéval, ben, d'Égypte, quoi, hein, à quelque chose de beaucoup plus libre. D'ailleurs, il dort. Hein, il n'est pas normalement, dans les gisants médiévaux, les personnages ne dorment pas. Ils ont les yeux ouverts. Hein, pour la bonne raison que ben, il ne faut pas rater le jugement dernier. Hein, et donc, les yeux sont ouverts. Parce que si vous fermez les yeux et vous ratez le jugement dernier, c'est mal barré. Hein. Donc, les gisants médiévaux, en général, les yeux ouverts. Parce qu'ils attendent. Ils attendent. Là, c'est plus tout ça. Là, on est dans la mélancolie du sommeil éternel. Si vous voyez, c'est une modification complète finalement, de l'esprit. Et c'est intéressant parce que ce Pierre Montand-là, qu'on a encore du mal un peu à cerner, mais il est certes sans doute l'auteur de ça, qui est un autre tombeau, qui, lui, vous voyez, est beaucoup plus un gisant traditionnel. Hein, même s'il est dormant quand même. Hein. Ouais, mais on est quand même plus proche du gisant traditionnel. Vous avez même là ce qu'on pourrait appeler des pleurants tout autour. Ouais, ouais, selon la vieille tradition médiévale, des pleurants, ils font des choses. Là, vous avez un bon temps qui nous propose une œuvre encore très médiévale. Alors que dans le.
Qu'est-ce qu'il y a au niveau des genoux, là ?
C'est les gants clairs. C'est les gants clairs. C'est les gants clairs. Mais vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on voit. On voit là la traduction à l'armescence d'un projet encore très médiéval, alors que dans l'œuvre précédente, il met le personnage assis, dort, enfin voilà, on voit que le, j'allais dire, pour enfoncer un peu le clou, hein, le carcan médiéval s'ouvre peu à peu, d'une certaine façon. Et là, on termine par la dernière œuvre. Alors là, on est où ? Eh bien, en Espagne. Ben voilà l'Espagne. Hein, voilà. Luis de Morales, qui est effectivement artiste espagnol. D'ailleurs, quand on regarde ça, on peut avoir dans l'autre œil gréco, si vous voulez. C'est pas que ce soit pareil, hein, mais on sent quand même un peu une sorte de communauté, pourrait-on dire. Donc là, on est dans la deuxième moitié du 16e. Hein. C'est intéressant parce que vous avez bien senti une manière nouvelle de représenter le rapport de la Vierge et de l'enfant. Hein. D'une manière très humaine, finalement, une chose qu'on voyait déjà au Moyen-Âge. On a déjà au Moyen-Âge des vierges allaitantes. Hein. Elles ne sont pas très fréquentes, mais il y en a. Là, simplement, la trivialité du geste est encore plus grande, si vous voulez, le côté intime, humain, quoi. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que Luis de Morales, il y a, bon, on connaît de lui d'autres œuvres. Là, par exemple, le tableau du Louvre de Morales, qui vous voyez, par exemple, une pièce. Là, mais là, vous voyez aussi, on sent derrière ça toutes les vieilles piétas médiévales. Hein, et là, il y en a des quantités. Hein, mais on voit bien quand même l'idée de choses nouvelles. Gréco, vous savez, il est originaire de Candie, hein, en Crète. Il a fait ses premières armes en Grèce, ensuite en Italie, notamment à Venise. Hein. C'est aussi là qu'il prend un peu, comment dire, qu'il regarde sans doute la période vénitienne, pensez à Tintoret, par exemple, et espèce d'idée de la déformation du corps, d'une chose que l'on voit en même temps en Espagne dans ces années-là. Donc, voilà, on est chez ce peintre-là. Et alors, Morales, il est intéressant aussi, pour une raison que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, on le voit bien dans ce tableau-là, qui est un tableau de lui assez étonnant, je trouve, parce qu'il montre bien ce que vous disiez, c'est-à-dire ce fait de mélange nord-sud. Vous avez peut-être en tête hein, certains d'entre eux, je pense à Jérôme Bosch, par exemple, avec cette espèce de trône de c'est un peu ce qu'on en a là, quoi. On est et l'Espagne est compliquée pour ça, parce qu'effectivement, mais il y a certains lieux d'Italie où c'est pareil, hein, il y a en Espagne beaucoup de gens du Nord qui vont arriver en Espagne au Sud. Donc, si vous voulez, certains peintres espagnols intègrent des éléments nordiques dans leur peinture, par exemple. C'est vraiment ce qu'on a là, quoi. Hein, on a comme des installations du Nord dans cette peinture du Sud. Quoi. Donc ça va brouiller un peu les cartes, mais ça va peut-être compliquer la vie dans les semaines qui viennent. On vous est prêts. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui c'était la première séance. Je voulais vous livrer ces œuvres-là pour qu'on ait comme ça une première. Bravo à vous. Je vais vous livrer en pâture ces cinq œuvres-là pour qu'on en discute, après avoir parlé un peu de qu'est-ce que la Renaissance. La fois prochaine, c'est la semaine prochaine ou pas ?
Oui.
On va travailler, je pense, hein, je n'ai pas encore tout réglé, mais on va travailler, je pense, de manière un peu plus didactique pour mettre les cartes. Mais on aura commencé à labourer le champ.
Merci.
Voilà, et bien, écoutez, à très vite. Merci.